Business Club de France, le magazine des entreprises qui font bouger la France, Michel Picot sur BFM Business.
Bienvenue dans ce nouveau numéro du Business Club de France. Nous allons nous intéresser longuement aujourd'hui à la qualité de vie au travail et ne dites pas encore, car aujourd'hui, c'est une amélioration de la vie de vos salariés, certes, mais c'est aussi une question peut-être même de survie de votre entreprise. Il ne faut pas négliger cet aspect humain et économique vital. Mais au-delà des belles intentions et des belles paroles, comment faire, me direz-vous? Les salariés ne sont jamais contents, je n'ai pas d'argent en plus à leur donner, disent beaucoup de dirigeants, et il faut bien, à un moment ou un autre, prendre des décisions. Mais faites attention à ce vieux schéma de pensée. Nous allons le voir dans cette émission. Nous allons même vous démontrer comment concilier qualité de vie au travail et business. Et puis, dans la dernière partie de cette émission, nous retrouverons le médiateur national des entreprises, Pierre Pelouzet. Nous reviendrons avec lui sur un groupe industriel qui a travaillé pour un projet durant 2 ans. Et finalement, le client n'en a pas voulu. Il arrête tout, il ne veut plus payer. Soyez les bienvenus dans le Business Club de France, numéro 480. Déjà, on n'attendra pas les 500, désolé. Comment contrôler son stress et gérer ses émotions et finalement faire en sorte que vos collaborateurs soient plus heureux au travail? Une question que l'on pourrait se poser. C'est qu'en France, on a tendance à râler pour tout. Ça relève peut-être certainement d'une certaine culture. On va en parler. On va en parler avec nos invités et ouvrir le débat. Et nous allons aussi vous proposer des pistes d'action à mettre en place pour faire et créer une entreprise qui soit dans le coup, dans le 21e siècle, connectée aux nouvelles générations. Parce que cette nouvelle génération ne vous fera pas de cadeaux. Elle restera pas chez vous si elle a pas envie de travailler avec vous. Nos invités, Evelyne Pletnik-Cohen. Bonjour Evelyne.
Bonjour Michel.
Présidente et fondatrice, on va un petit mot déjà sur Booster Academy, déjà pour commencer.
Oui, tout à fait, des centres d'entraînement intensif à la vente et 17 centres en France. Donc vous entrez dans un centre, on va mesurer votre niveau de vente et vous allez doper votre efficacité commerciale.
Voilà, et puis vous avez créé récemment The Artist Academy.
Oui, alors The Artist Academy, ce sont des masterclass digitales avec des gens célèbres. Donc on vous apprend à écrire avec Éric-Emmanuel Schmitt, on vous apprend à créer avec Chantal Thomas, on vous apprend à être inspiré par la musique classique avec Gauthier Capuçon. Donc voilà, The Artist Academy, un nouveau projet.
Et les artistes viennent aussi facilement donner des cours, finalement, c'est ça un peu?
C'est une bonne question, et en fait, quand on a eu Éric-Emmanuel Schmitt au téléphone, il nous a dit, mais j'attendais, je voulais ce projet, donc je vous dis oui immédiatement, ce qui est quand même extraordinaire pour quelqu'un qui a vendu plus de 20 millions d'exemplaires dans le monde. Donc oui, les artistes qu'on a, ce sont des artistes qu'on ont envie de transmettre, tout à fait.
Evelyne, quel parcours durant ces dernières années? Je me souviens de votre première venue dans cette émission.
Ah, il y a longtemps déjà.
Et toute l'équipe du Business Club, franchement, est fière de vous avoir accompagné, j'espère, vous avoir
tout
mis
fait.
Un petit peu en avant.
Et merci Michel de m'avoir donné cet espace de parole qui a permis justement à nos différentes marques. Et merci BFM, merci Michel, parce que c'est grâce à vous que notre notoriété s'est véritablement installée aujourd'hui en France.
Bah, en tout cas, c'est une fierté pour toute l'équipe du Business Club. Vous savez, on tire le rideau définitivement cet été, mais je suis fier et on a d'autres exemples aussi comme ça d'entrepreneurs qui sont venus ici. C'est tout petit, maintenant ils sont des licornes, mais en tout cas on est fier de les avoir accompagnés. Quel parcours. Voilà, ça c'est dit, on n'en est pas là, on reste encore, on a une mission à faire, on n'en est pas là, on a encore beaucoup de choses à vous dire parce que le changement ça inquiète. Alors je parle pas de nous, c'est un détail, mais dans les entreprises, comment gérer le stress du changement? Le sport est certainement une des discipline qui, au-delà de la performance physique, engage fortement le mental. Et nous avons le plaisir d'accueillir Laurence Fischer. Bonjour.
Bonjour Michel.
Championne du monde de karaté.
Eh oui.
Eh ben merci en tout cas d'être là. Le sport, et en particulier le karaté, nous en dit long pour apprendre justement à gérer son stress, à maîtriser ses émotions. Il y a des techniques. On va les développer tout à l'heure s'il y en a, mais d'abord dites-nous si ça vaut le coup ou pas.
Ah oui, ça vaut vraiment le coup. C'est vrai que ça fait entièrement partie pour l'athlète de sa performance et c'est quelque chose qu'on analyse en permanence et qu'on doit vraiment maîtriser. Donc les émotions et son pour être performant et efficace avec en prenant du plaisir aussi, c'est important. Oui.
Ah, la notion de plaisir est importante dans
Bien
le.
Sûr. Bien sûr.
Oui, vous allez me dire, faire du sport, ça devient supplice, c'est pas... Enfin, c'est peut-être pour ça que j'ai pas osé me lancer en sport, soyons clairs. Vous nous direz dans un instant plus de détails. Je voudrais vous présenter Stéphane Valère, bonjour.
Bonjour.
Alors vous dirigez une start-up qui s'appelle Blixo. Que faites-vous? Quelle est votre activité précisément?
Alors en fait, il y a un lien direct entre la qualité de vie au travail, l'engagement salarié et le résultat net de l'entreprise, l'efficacité d'entreprise. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, les managers ou les RH n'ont pas de visibilité sur tout ce qui fait que les gens sont bien dans leur basket au travail, sont engagés. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on audite tous les leviers, tout ce qui fait que quelqu'un est bien dans ses baskets. On dit ce qui va pas au niveau, donc c'est anonyme évidemment, au niveau collectif. Et puis on apporte des solutions. La plateforme fait tout ça.
Donc c'est-à-dire que vous utilisez les technologies. Voilà. On va le détailler tout à l'heure, mais pour détecter, je dirais, les signaux faibles d'une éventuelle mauvaise ambiance qui pourrait contribuer à une mauvaise qualité de vie au travail.
C'est ça. En fait, avec l'intelligence artificielle, on identifie ce qui plombe l'engagement, ce qui fait que l'engagement, la qualité de vie au travail n'est pas bonne. Quelles sont les frustrations ? Est-ce que je comprends pas bien la stratégie, ou est-ce qu'il y a pas une bonne ambiance dans mon équipe, ou est-ce que je manque d'autonomie, etc., etc. Et en identifiant, il y a des dizaines de facteurs, donc en identifiant les bons facteurs, les facteurs prioritaires, on donne la possibilité aux dirigeants, aux managers d'améliorer le système, parce que c'est systémique, et donc d'améliorer la qualité de votre travail. Tout le monde y gagne, les salariés sont mieux dans leur basket, l'entreprise fonctionne mieux, voilà, tout. C'est un cercle vertueux.
Vous disiez, Blexo capte les signaux faibles, plus besoin de glaner les informations devant la machine à café pour savoir ce qui se passe dans l'équipe, plus besoin de discuter avec Lucette, qui a tendance à noircir le tableau, ou au contraire, qui est un peu trop zen, et qui dit que tout va bien, j'adore, c'est alors que tout va mal, et vous dites, on arrête une bonne fois pour toutes.
Radio Moquette.
Radio Moquette.
J'adore. On objective et donc ça permet de discuter. Ça permet une médiation parce qu'on se comprend mieux en fait de part et d'autre. On a des données objectives pour discuter et donc les choses s'améliorent. C'est la base de l'amélioration.
Ah, ouais. Radio Moquette, comme quoi la rumeur. Et l'ambiance est quand même un point important. On va le développer. Alors selon la dernière étude santé des salariés, performance des entreprises réalisée par Malakoff Médéric, 67% des salariés considèrent leur job comme nerveusement fatigant, impliquant souffrance au travail, dépression et burn-out. Ça vous inquiète ce chiffre ? Moi, il m'inquiète. En même temps, je le disais tout à l'heure, on est des râleurs en ce pays, hein.
Oui, parce que j'espère que chez Booster Academy ou chez The Artist, 67% de mes collaborateurs ne pensent pas ça. Ça me paraît, oui, le chiffre me paraît évidemment très très élevé. Après, c'est vrai que ça dépend de la façon dont on pose des questions. Parce que parfois, quand on pose que des questions négatives, on a que des réponses négatives aussi. Donc,
C'est clair. Donc, dans ce mal-être, donc fatigue nerveuse, souffrance au travail, etc., j'imagine qu'il y a des remèdes, on vient d'en parler un instant. L'ambiance déjà, arrêtons Radio Moquette, ça serait déjà un premier point. Mais est-ce qu'il n'y a pas un remède plus simple, une augmentation de salaire, tout simplement?
C'est une bonne question. Alors, j'écoutais Nicolas Dose sur les experts qui disait qu'en France, nous sommes les mieux payés en salaire brut-brut. Hein. J'écoutais ça juste tout à l'heure.
Salaire brut-brut, oui.
En salaire brut-brut. Donc, nous sommes les mieux payés. Donc, en définitive, Alors non seulement la réponse est non, parce que je pense que il y a les salaires sont corrects en France, mais la réponse est doublement non, parce qu'en fin de compte, on se rend compte que les collaborateurs, c'est pas d'argent dont ils ont besoin, c'est avant tout de reconnaissance. Mmh. Et que la reconnaissance est le premier moteur. Et quand vous avez un collaborateur qui vous dit soit tu m'augmentes, soit je pars, c'est que le problème, il est pas dans l'augmentation. Il est ailleurs. Et donc, mais c'est beaucoup tellement plus facile de donner quelques centaines d'euros sur une fiche de paie plutôt que de travailler sur, on va parler de l'ambiance, de la posture personnelle, etc.
On va l'évoquer chez ça, ouais. Bien sûr. Mais donc, ça veut dire que le salaire n'est pas une raison. Laurence Fischer, vous qui consultez aussi beaucoup d'entreprises aujourd'hui, après votre carrière sportive, c'est ce que vous ressentez? C'est quoi le mal-être? Comment vous l'identifiez, vous?
Il y a beaucoup de...
C'est pas forcément que le salaire,
c'est effectivement, ça a été dit, c'est pas ne pas être valorisé, ne pas trouver sa place dans le groupe, ou alors... je pense on peut ressentir ça nous aussi en équipe de France. Enfin, ça peut arriver, mais souvent ça se règle assez vite du fait de la performance et du résultat. C'est un sport individuel, mais on le retrouve dans les sports collectifs aussi. On dépend aussi des autres dans le résultat qu'on va donner. Il y a une vraie solidarité qui se crée, et pourtant il y a de très fortes personnalités aussi. Mmh. Mais on a cette obligation du fait de parce qu'on aime aussi ce qu'on fait, d'avoir à collaborer pour arriver à un objectif commun.
Ouais. Voilà. C'est intéressant ce que vous dites, parce que pour arriver à un résultat, il faut qu'on soit ensemble.
Oui.
Hein, d'après ce que je comprends.
Oui, oui, oui.
Et ça veut dire que pour être ensemble, il faut qu'on s'entende, qu'on soit bien ensemble. Et c'est, et ça, ça rejoint ce qu'on disait avec, avec Stéphane tout à l'heure. C'est l'ambiance finalement, l'environnement.
L'environnement, c'est ça. En fait, avec Blixo, on s'aperçoit que finalement la qualité du lieu de travail, bon, ça c'est pas nous qui le disons, il y a plein d'études, ça dépend de dizaines de facteurs. Vous parliez du salaire, vous parliez de la reconnaissance, mais il y en a plein d'autres. Ce n'en sont que deux, en fait. Et avec Blixo, ben, ça permet d'objectiver et de comprendre. Et effectivement, parfois, le chef d'entreprise se fait un monde de ne pas augmenter ou de refuser une augmentation.
Oh, là, ça va être la catastrophe. Ou parfois, il peut pas aussi, hein.
Oui, mais voilà, il ne peut pas, non, il ne peut pas. Ou il ne veut pas, et donc il se dit, voilà, ça va être la catastrophe, ça va plomber l'ambiance, ça va plomber. Et en fait, pas du tout. Avec un outil comme Blixo, on va pouvoir mesurer que finalement, bah, ok, les gens sont pas très contents. On les comprend, mais ça impacte pas tant que ça leur qualité de vie au travail et leur engagement, ou en tout cas pas durablement, parce que finalement, à cet endroit de l'entreprise, c'est plutôt l'ambiance entre les collègues, ou la reconnaissance, comme vous disiez Evelyne, ou la compréhension de la stratégie, ou la clarté de l'organisation, ou la pureté de la clarté des objectifs, ou la sensation de pouvoir être autonome. Et c'est tout ça qui fait la qualité du travail. C'est tout ça qui fait que on est bien dans son boulot ou on n'est pas bien dans son boulot. Et chacun les uns les autres, on a des curseurs qui sont différents. Et donc on se génère du stress. Ces frustrations génèrent du stress. Et moi, ce serait pas le même que vous.
Ouais. Alors, il y a des métiers qui ont de plus fortes pressions. On va en parler avec Evelyne dans un instant, notamment la vente, hein, et les objectifs et tout ce qui va avec. Il faut dire quand même que ce stress peut être générateur de maladies beaucoup plus graves derrière. Et c'est pas à négliger quand même. Parce que là, on a beau dire, on en prend tous plein le dos, et puis au bout d'un moment, ça craque. Et du coup, pour l'entreprise, c'est pas. On va voir parce qu'il y a un ratio qui est très intéressant entre le bonheur et le business.
Exactement. Et en fait, on peut prendre Michel, on peut prendre le problème dans l'autre sens. C'est qu'on peut se dire que des équipes pas du tout stressées, au contraire, avec une forte qualité de vie au travail, génèrent beaucoup.
Ouais.
C'est plutôt ça. Comme ça qu'il faut le voir.
Ouais.
Et il
y a
des chiffres qui sont intéressants. Alors en France, on dit qu'il y a à peu près 15% des salariés qui sont très engagés, ce qui est très peu. Alors a priori, on n'est pas les plus mal lotis, mais c'est très peu. Et il y a une grande étude internationale qui montre que des équipes avec une forte qualité de vie au travail génèrent plus 22% de résultats nets pour l'entreprise. C'est un levier extraordinaire.
Oui.
C'est extraordinaire.
Ça fait réfléchir.
Ah oui, ça fait réfléchir, exactement, ça fait réfléchir. Parce que c'est pas forcément beaucoup d'argent.
Non, parce qu'on va voir après, au niveau des solutions, c'est pas forcément beaucoup d'argent. C'est juste une question d'organisation. Puisque vous avez la parole, Stéphane Valère, comment détecter ces signaux faibles de la part d'un dirigeant? Parce que lui, il a peut-être aussi le nez dans le guidon, et il voit pas ce qui se passe autour de lui.
Bon, j'ai prêché pour ma paroisse, en fait, c'est impossible. C'est impossible de capter les signaux faibles, parce que les dirigeants n'ont pas la compétence pour analyser très finement le problème. Parce que c'est compliqué, ils sont pas formés à ça, et les collaborateurs n'ont pas la compétence eux-mêmes pour parler finement de leurs problèmes. Un collaborateur, un entretien, il va vous dire une fois par an, alors c'est vraiment pas assez, hein, ce qu'il faut c'est du temps réel, il va vous dire, moi j'ai pas été augmenté, ou j'ai pas eu ma promotion, ou mon ordinateur plante tout le temps, je peux pas travailler, ou ma bagnole, franchement, t'as vu toutes les bandes que je fais, ça va pas. Mais c'est pas là le problème. Le problème, il se casse sur des choses beaucoup plus fines.
Ouais.
Et donc en fait, pour capter les signaux faibles, le seul moyen, c'est de savoir écouter et comprendre. Or, je suis pas sûr qu'un collaborateur et son manager aient le temps et les compétences et la régularité pour le faire. Donc un outil comme Blixo, bah, c'est une porte d'entrée vers un cercle vertueux facile à atteindre derrière.
Ouais, ouais. Parce qu'on pourrait se poser la question aussi, est-ce que parfois, souvent même, peut-être que le salarié a des problèmes dans sa vie perso. Est-ce que c'est à l'entreprise de venir lui apporter une aide? Je suis pas contre l'idée, hein. C'est pas la question. Mais en même temps, l'entreprise a un business à faire aussi. Et on se retrouve dans des situations un peu complexes, hein. On est juste là en train de planter le décor, mais voilà, c'est juste le constat et la réalité. Avant de parler de solutions et de pistes d'action, on parle beaucoup des salariés et de leur qualité de vie de travail. Et j'ai envie de vous dire, et les dirigeants? Déjà qu'ils n'ont pas de médecine du travail, ces gens-là, qui sont très mal couverts. Il y a des réflexions d'action pour eux, Evelyne?
Alors là, il y a un vrai gros sujet qui aujourd'hui ressort tout doucement. Et là, on parle en effet de beaucoup de dirigeants qui sont proches du burn-out. Il y a quand même eu grosse problématique sur les marges ces dernières années, entre autres. Donc ça met le dirigeant sous tension. Et c'est vrai que lui, on l'oublie, mais complètement, complètement. Et lui, il a besoin de s'équiper comme un sportif de haut niveau. Mmh. Simplement, il a pas d'effet miroir hein, parce que il a pas justement de médecine du travail. Enfin, il a rien. Donc, c'est un vrai problème. Et aujourd'hui, il y a quelques études qui ressortent dont on parle pas tellement, sauf sûrement sur BFM. Enfin, hormis ça attaque pas toujours le très très grand public.
Il y a même un observatoire qui a été créé sur la santé des dirigeants qui s'appelle Amaroc, je crois, hein, de mémoire, qui est basé à Montpellier et qui voit que notamment les dirigeants de petites entreprises, ils prennent cher.
Oui, exactement. Et donc là, il y a un vrai travail à faire et ils doivent se considérer en effet comme des sportifs de niveau et travailler beaucoup de choses pour leur santé, le temps qu'ils doivent prendre pour eux-mêmes, le stress qu'ils subissent, le banquier parfois hein, qui est stressant. Comment gérer son banquier, rien que ça. Ça pourrait être des cours en tant que tel parce que c'est un vrai sujet, parce que quand les marges baissent et qu'on n'a pas le cash qui rentre, bah, je peux vous dire que le dirigeant peut très très mal dormir la nuit. Et
c'est sportif.
Hein. Ouais, et puis évidemment des maladies en découlent derrière direct.
Et là, ça serait presque un autre débat. Hein,
oui, tout à fait.
Alors, on va parler de solutions, toujours pour reprendre cette étude de Malakoff-Médéric, dont je vous parlais au début de cette émission. Un salarié heureux et moins absent, Stéphane Valère nous le disait tout à l'heure, il est plus fidèle et plus productif. Et les équipes fortement engagées bénéficieraient même, vous disiez Stéphane, de 22% de résultats nets supplémentaires. Vous avez même
avancé. Les entreprises sont plus rentables. Il y a même une étude qui montre que
à 30%, vous avez avancé le chiffre. J'ai vu. Vous dites ça peut aller jusqu'à 30% si tout le monde est là.
Ouais, exactement. Et il y a une étude américaine qui est intéressante. Ils ont, je sais plus très bien comment ils ont fait, mais ils ont calculé, ils ont comparé des entreprises cotées avec des forts taux d'engagement. Donc on mesure par exemple le turnover, etc., qui sont des indicateurs. Et les entreprises avec des forts taux d'engagement distribuent, je crois que c'est 15% de plus de dividendes. Mm-hmm. Aux actionnaires que les autres. Donc ça va jusqu'à l'actionnaire, mais l'entreprise c'est systémique. Hein. On parle du dirigeant, il y a l'actionnaire, il y a les salariés, il y a les clients.
Bien sûr.
Et il y a un autre chiffre qui est intéressant, c'est que les entreprises, il y a une étude qui montre que pour les équipes engagées, le service client gagne 10 points. Donc les clients sont plus satisfaits de ce que l'entreprise leur délivre à partir du moment où ils ont en face d'eux des gens qui sont avec une bonne qualité de vie au travail. Je parle d'engagement, qualité de vie au travail, c'est le même mot. Hein.
J'entends bien.
C'est deux axes différents pour décrire la même chose.
Voilà, donc on vous a prouvé qu'aujourd'hui, on peut plus travailler comme avant.
Exactement.
Il faut voir les choses autrement. Alors, j'entends les dirigeants d'ici me dire, ah oui, non, c'est bien beau, toutes ces petites phrases, etc. Mais on fait comment? Alors, on va commencer peut-être à parler de solutions et on va commencer par le début. D'abord, peut-être apprendre aux collaborateurs, et j'ai même envie de dire aux dirigeants, hein, puisqu'on l'a évoqué tout à l'heure, apprenez à gérer votre stress, à maîtriser vos émotions. J'en connais beaucoup qui me dit oui, je sais le faire, mais en fait ils prennent tout sur eux, sortent d'éponge et après ils finissent mal. Que ce soit salarié comme dirigeant, hein, soyons clairs. Laurence Fischer, vous qui êtes une sportive de haut niveau, la spécificité du karaté, vous êtes championne du monde, c'est la maîtrise de soi, la maîtrise de ses techniques, la maîtrise de ses émotions.
Oui.
Est-ce que ça s'apprend?
Oui, ça s'apprend absolument. Apprendre à se connaître, ça s'apprend par la pratique.
Ouais.
Et c'est vrai que nous, comme on a l'objectif de performer et d'être efficace sur la durée, en plus, ça s'apprend par l'action et par le corps, parce que c'est vrai que ne négligeons pas notre corps, s'il vous plaît, et maîtriser ses émotions, c'est d'abord les identifier et une fois qu'on les a identifiés, les accepter. Parce que ça fait aussi partie de nous soi. Donc, comment? Par l'action. Donc, s'analyser.
Mais alors, s'analyser. Attendez.
Vous allez me dire facile à dire, n'est-ce pas? Mais
je vais donner la parole à Evelyne tout à l'heure parce que on va prendre l'exemple d'un commercial. Il est au taquet. Il a des objectifs à faire. Et donc, ça veut dire qu'il ne pense qu'à ça.
Oui.
Là, vous dites, je prends le temps de m'analyser. De me faire un auto-audit. C'est bizarre comme terme, mais pourquoi pas?
Oui.
Mais on n'a pas le temps. Et d'abord, on se pose quoi comme question?
Justement, au moment où nous, on le fait quand on est à l'entraînement. Ouais. Et là, le résultat, c'est au moment de la performance. Mais si au moment donc ça veut dire qu'au moment où le commercial va faire son job, il faut qu'il ait une conscience de ce qu'il fait et de ses propres réactions. Et qui se disent, tiens, là, à ce moment-là, j'étais en colère. Pourquoi? Et la solution, elle va venir là, c'est de se dire, pourquoi est-ce que j'ai réagi de cette manière et qu'est-ce que je peux faire pour que ça ne se reproduise pas parce que je sens que c'est mauvais pour moi quand même. Enfin, nous, ce travail-là, on le fait en permanence, mais au quotidien et pour chacun, c'est à faire aussi. Et la solution de se dire bon ben ok, je suis plutôt d'un tempérament colérique, bon, je caricature, mais
non, enfin, moment voilà. on peut être énervé assez facilement oui, parce que c'est,
voilà,
ça devient difficile
en fonction des périodes aussi. Ouais. Donc c'est et ça on se nuit d'abord à soi-même et ensuite forcément à son environnement. Donc qu'est-ce qu'on va mettre en place?
Ouais. Vous êtes en train de me dire apprenez à vous écouter, c'est ça?
Ouais, un petit peu, oui.
Mais non, mais quand on a le nez dans le guidon, j'en démords pas. Dirigeant comme salarié avec des objectifs pas possibles, j'en démords pas. Eh ben, ça empêche de dormir, mais on pense qu'à ça. Non.
Mais alors franchement, je suis totalement d'accord avec Laurence. On est dans un monde occidental avec un style occidental où on ne sait pas s'écouter. Mmh. Après, quand on regarde, et ça fait partie des masterclass que j'aimerais monter avec un maître chinois, quand on regarde des Asiatiques, quand on regarde d'autres cultures, ils savent s'écouter. Et vous pouvez pas vous imaginer l'impact du stress sur l'ensemble de vos organes.
J'entends, mais savoir s'écouter, c'est un fait. Un objectif à atteindre pour son job, ça n'est un autre.
Oui, donc, mais sauf qu'il y a les moyens, il y a le résultat. Si vous mettez pas les bons moyens derrière, les résultats vous ne les aurez
ça
pas.
Ça veut dire qu'au niveau du management, il faut que les managers soient capables, vis-à-vis de leurs équipes, de leur laisser du temps pour s'écouter.
Oublions les managers 5 minutes et déjà prenons en main notre propre vie avant de compter sur notre manager.
J'entends, mais au quotidien, Evelyne, si vous avez une pression, vous avez un pic, un objectif, qu'est-ce que vous faites? Vous n'avez pas envie de perdre votre job, vos primes?
C'est ce que disaient Evelyne et Laurence, c'est avant tout avoir la posture de prendre un peu de recul sur ce qu'on est en train de faire, se dissocier, ce qu'on appelle se dissocier, se voir en train d'eux. Et donc, à partir du moment où j'ai la sensation, la perception, j'arrive à identifier une émotion qui peut être négative, c'est déjà le début d'un mieux. Et ça, c'est pas forcément en se bloquant des demi-journées de travail en groupe dans un petit château ou dans une salle de réunion. C'est un travail personnel qu'on peut faire tout le temps. Mais c'est difficile parce que c'est pas dans notre culture. Hein. C'est un apprentissage. Mais là, ce qu'on est en train de faire, déjà, il y a plein de gens qui nous écoutent et qui disent, tiens, je vais essayer. Et c'est un objectif important, mais ils vont essayer dans la prochaine heure, puis un peu moins dans l'heure d'après, mais déjà, ils auront ancré quelque chose.
Mais est-ce que le fait de faire en sorte que tout glisse sur soi sans s'en occuper, c'est peut-être pas la meilleure des possibles?
On n'en est pas là.
Le côté zen, tout va bien, je te la parole.
Déjà, faites 20 minutes de méditation, 10 minutes avant de dormir. Il y a plein d'applications, Petit Bambou, Zenfi, etc. Vous allez voir, votre vie va changer. À partir du moment où moi j'ai commencé à le faire il y a à peu près 2 ans, ma vie a changé. Et si j'ai monté cette nouvelle entreprise, c'est parce que j'ai réussi. Mais alors c'est un déblocage qui est pas psychologique, mais physiologique, c'est-à-dire sur le corps où il y avait énormément de stress, etc. Donc on est dans la physiologie et donc j'ai débloqué un certain nombre de choses qui m'a permis d'aller au devant juste avec une application et avec, on va dire, entre 10 et 15 minutes de méditation par jour. Donc on ne peut pas imaginer l'effet à un moment donné de la prise de recul sur soi. Maintenant, toujours penser que c'est la faute du dirigeant, la faute du manager, c'est un peu facile aussi. Et je pense que chacun d'entre nous, on est quand même maître de notre vie, on est maître aussi de notre objectif et de la façon dont on doit les réaliser. Donc il faut bien se regarder dans la glace et bien comprendre ce qu'on a envie de faire, ce qu'on n'a pas envie de faire.
Laurence Fischer, nous reste une minute.
Ouais, je suis très contente qu'on parle du corps parce que c'est aussi mon combat, et notamment sur les femmes les plus vulnérables, à les aider par la réappropriation de leur corps. Mais justement, ce que je voulais vous dire aussi, c'était oui, la méditation, mais aussi essayer de prendre du temps pour faire ce que vous aimez à côté. Et c'est aussi la force pour les athlètes. On est comme ça aussi. Prendre un moment, si c'est pas la méditation, ça peut être la peinture ou jouer d'un instrument de musique. Ou voilà, il y a aussi le corps, aller faire du sport, s'accorder ce moment-là, quelque chose qu'on aime, c'est important.
Ouais. On va, j'ose même pas poser la question à une championne du monde de karaté pour lui dire est-ce que le sport, même pas professionnel, est bon pour déstresser. La réponse est...
Bien sûr.
Voilà.
Bien sûr. Une paire de baskets et hop, on sort du bâtiment, on va courir. Et ça change tout.
On va marquer une très courte pause et juste après la pause, on va rentrer dans les solutions concrètes cette fois-ci. On a déjà aperçu un petit peu. Déjà, apprenez à vous entendre, à vous écouter. J'ai presque envie de vous dire à vous aimer un tout petit peu. Et après, il y a d'autres pratiques, j'imagine, ou d'autres techniques qui peuvent vous aider à améliorer la qualité de vie au travail. À tout de suite.
Business Club de France, le magazine des entreprises qui font bouger la France. Michel Picot sur BFM Business.
De retour dans le Business Club de France avec ces questions centrales qui nous intéressent aujourd'hui. Comment contrôler son stress et gérer ses émotions au travail? Quels sont les outils existants? Pourquoi les entreprises doivent-elles à tout prix
placer le salarié au cœur de leur stratégie. Nous en parlons en compagnie de Evelyne Platnik-Cohen, qui est la présidente et fondatrice de Booster Academy et de The Artist Academy, hein, c'est tout récent. Laurence Fischer, qui est champion du monde de karaté, et Stéphane Valère, qui est le fondateur de Blixo. Il nous reste quelques minutes, je voudrais qu'on soit le plus concret possible. On a, juste avant la pause, on a évoqué effectivement l'état des lieux et au-delà, on a commencé à dégager des pistes de réflexion, à savoir déjà, apprenez à vous écouter, vous qui êtes salarié, ça compte aussi pour les dirigeants dans une autre cas de figure, parce qu'un dirigeant a peut-être un peu moins de temps et c'est un petit peu plus compliqué pour lui. Mais apprenez à vous écouter, apprenez à écouter votre corps pour pouvoir gérer émotions et stress. Evelyne Platnik-Cohen, est-ce que vous vous enseignez au sein de Booster Academy à vos futurs commerciaux à gérer ce stress-là? Parce que les commerciaux, ça fait partie quand même des professions particulièrement exposé quand même.
Oui, alors tout à fait. D'autant que les commerciaux, tout le monde est un peu commercial. Donc en fait, les gens qui viennent chez Booster, c'est aussi des dirigeants d'entreprise, des gens qui sont chez des clients et qui ont besoin de savoir vendre. Donc en fait, c'est, on va dire, 80% de la population active est un client potentiel chez pour Booster Academy, puisqu'on a tous quelque chose à vendre à quelqu'un. Donc tous ces gens-là, à un moment donné, soit ont des objectifs parce que c'est intrinsèque à leur job. On parle de commerciaux, mais un dirigeant a des objectifs et un ingénieur peut en avoir aussi. Et là, c'est un peu brutal parce que parfois, ils n'étaient pas habitués. On leur a pas dit à l'école qu'un jour ils allaient avoir des objectifs et de l'argent à ramener. Donc il y a cette espèce de stress qui est vraiment très très important. Et évidemment, c'est complètement intrinsèque à Booster Academy, c'est des choses que nous abordons. Plusieurs petites choses très rapides. Un, c'est de prendre du plaisir. Si j'ai pas de plaisir dans mon job, de toute manière mes objectifs, je les atteindrai pas.
Mais ça veut dire quoi? Je pars?
Ça veut dire je pars, je vais ailleurs.
D'accord. Hein, OK, si je pense ah mais faut partir si vous pensez. Et à oser changer, quoi.
5 minutes que l'herbe est plus verte ailleurs, mais allez ailleurs, je vous en prie, quoi. Arrêtez de vous plaindre, allez ailleurs. Parce que là où vous serez, vous verrez si l'herbe est plus verte et là peut-être que vous atteindrez vos objectifs. Donc déjà c'est reprendre du plaisir. Mais ensuite il y a des choses très très faciles qu'on oublie, c'est déjà un commercial ou n'importe qui quand il atteint ses objectifs en début de mois, après il s'éclate. Le succès amène le succès. Donc si vous avez ramé tout le mois ou si vous vous êtes dit comme certains de mes clients quand j'arrive, les 10 premiers jours, je me repose, moi, le commercial, parce que j'ai encore une bonne quinzaine de jours pour faire mes objectifs et je fous rien pendant les 10 premiers jours. Je me mets une pression d'enfer sur les 15 derniers jours pour faire mes objectifs. Je fais mes objectifs, je suis tellement fatiguée que je suis obligée de reprendre mes 10 jours pour me reposer. J'ai tout faux. En fait, ce qu'il faut, c'est mettre une vraie bonne pression les 10 premiers jours, éclater ses objectifs et alors vous avez les 15 derniers jours pour vraiment vous amuser et faire encore plus. Donc, c'est vraiment faire ses objectifs le plus en début de mois possible et pas avoir ces espèce de repos que je vois, mais chez tous mes clients, que ce soit mensuel ou trimestriel.
Vous avez envie de me dire, ne procrastinons pas.
Oui, et soyons intelligents. Après, il y a une autre technique, et ça, justement, je l'applique là dans la BFM Academy avec mon coach, enfin celui que je coach, en tout cas, Julien. Et là, on a travaillé ensemble sur des objectifs et on les a formulés, c'est-à-dire qu'est-ce que tu veux faire comme objectif au départ, c'est quoi ta réalisation. Donc, ça veut dire que tu dois devoir faire combien de rendez-vous, appeler combien de personnes, comment t'organises dans ton emploi du temps, etc. C'est-à-dire avoir une vision très claire de ce que je dois faire dans le mois pour être tranquille. Et quand j'ai des rendez-vous de clients dans mon Outlook ou dans mon Gmail, je les mets en couleur rouge et je regarde que j'ai bien assez de rouge étalé dans mon mois. Enfin, j'essaie de faire les choses avec plaisir, zénitude. C'est pas en se mettant une pression d'enfer qu'on va y arriver mieux.
Donc, ça veut dire s'organiser.
La
to-do list, éventuellement, mensuelle.
Toujours. Alors, tout le temps. To-do list, vous devez trouver alors, ça peut être un carnet par écrit, ça peut être une application. Mais la to-do list, elle vous permet vraiment de décharger, votre esprit de tout ce qu'il y a à faire.
Ouais.
Et le CRM, hein. Utilisation optimale de votre CRM, messieurs et mesdames, les commerciaux.
Voilà, qui est dit, qui est une manière d'apaiser, on va dire, ce stress permanent, parce que c'est vrai qu'ils sont soumis à de très fortes, il et elle, bien entendu, hein. Sans soumis à de très fortes pressions. Stéphane Valère, je rappelle que vous êtes fondateur de Blixo. Alors vous utilisez un peu l'intelligence artificielle dans le cadre de vos activités. On le disait tout à l'heure, pour détecter les signaux faibles d'un malaise au sein de l'entreprise, pour éviter Radio Monquette. Mais si on va un petit peu plus loin, quel conseil vous donneriez effectivement pour que on évite ou on dégrade la qualité de vie au travail?
Oui, c'est exactement ça. Alors en fait, ce qu'on fait avec Blixo, c'est, je vais employer une petite image, c'est qu'on met une oreillette. Alors évidemment, on met pas une oreillette, mais on donne des conseils. Mais c'est comme si on mettait une oreillette à chaque manager et qu'on lui disait, en ce moment, ton équipe, voilà ce qu'elle vit et voilà comment tu peux l'aider. C'est du direct live. Donc c'est pas par une oreillette, c'est par l'application. Mais c'est essentiel parce que au cœur de la qualité de vos travail, il y a les managers. Amis dirigeants, il faut soutenir vos managers. Ils sont stratégiques. Et pour les soutenir, vous pouvez pas le faire seul. Ils peuvent pas y arriver tout seuls. Il faut donner aux uns et aux autres, aux salariés, la capacité à dire ce qui se passe. Il faut donner la parole aux salariés avec un tiers de confiance, comme Blixo, par exemple. Il faut diagnostiquer donc ce qui porte la qualité due au travail, au contraire, ce qui la plombe, identifier ça clairement, et pour ce qui la plombe, bah, il faut donner les bons conseils au bon moment. Or, aujourd'hui, les managers, ils vont peut-être 2-3 jours par an en formation. Nous, on fait ça en temps réel, tout le temps.
Blixo, c'est une appli. Oui. Et chaque salarié.
C'est pas une appli, mais c'est dans. Enfin, ouais, voilà. C'est un site. Mais,
voilà, c'est un site. Et chaque salarié, je dirais de manière anonyme, peut.
Alors, chaque salarié est invité chaque semaine en 45 secondes à répondre à 3-5 questions qui sont personnalisées à son, okay. à son expérience avec l'intelligence artificielle. Et de l'autre côté, les managers ou les DRH ou les dirigeants ont accès à un dashboard qui leur montre ce qui va et ce qui va pas de façon collective et 100% anonyme.
D'accord. Donc
c'est totalement, et entre les deux, il y a des maths. Ouais. En fait, c'est pas de la magie, c'est juste des maths. On retraite les données et on dit ce qui va pas et ce qu'il faudrait faire et on mesure le retour sur investissement des actions mises en place. Pour quelques euros par mois par salarié, donc c'est hyper rentable.
Et ce qui permet effectivement de pouvoir prendre les bonnes décisions par rapport à ce qu'on peut entendre. Manière anonyme, bah, encore une fois.
En fait, hein, ça permet que les salariés se sentent écoutés, que les managers se sentent épaulés, quoi. Sont épaulés. Ils sont écoutés, ils sont épaulés et soutenus, et les dirigeants ont enfin de la visibilité sur ce qui va et ce qui va pas. En fait, si vous voulez, ça gomme les distances hiérarchiques ou géographiques.
Ça rejoint un point qu'on évoquait tout à l'heure. Est-ce qu'il faut investir lourdement pour créer une bonne ambiance au bureau? Bah non.
Non, nous c'est quelques euros par mois par salarié, donc ça vaut rien.
Oui, non mais voilà,
Donc puis c'est des anniversaires, ça coûte pas cher. Non, mais faire boire des pots en bas au café, ça coûte pas cher. Faire des escape games, ça coûte pas cher.
Et enfin, ce sont autant d'éléments qui sont importants pour créer cette cohésion, pour créer cette envie d'être ensemble et de bosser ensemble hein, finalement.
Ouais, moi, excusez-moi, je pense que ça vient. Après, c'est-à-dire que c'est pas parce qu'on fait un escape game ou qu'on met un canapé que les choses vont aller mieux. Il faut comprendre profondément ce qui peut ne pas aller. Et ça, c'est la cerise sur le gâteau. C'est un morceau, c'est l'ambiance. Mais il n'y a pas que l'ambiance. Mais vous avez tout à fait raison. Pour l'ambiance, ces outils-là sont intéressants.
Ah bah quand vous allez dans un endroit où il y a une mauvaise ambiance, vous y allez pas hein, finalement. Ou alors vous y allez avec.
Oui, escape game ou pas escape game, s'il n'y a pas une bonne ambiance.
Ce que dit Evelyne, et je trouve pas faire un pot, ça permet de connaître les autres autrement. Ils sont pas
derrière. Exactement.
Et ça c'est intéressant. D'accord. Laurence Fischer, j'ai envie d'entendre vos conseils aujourd'hui.
Oui, moi.
On parlait de sport. Le sport au service de la gestion du stress et la maîtrise de ses émotions. Vous me disiez tout à l'heure, c'est un travail quotidien, pratiquement. Oui, se poser la question, pourquoi je suis angoissée par rapport à telle situation?
Oui, et puis il y a quelque chose qui me vient aussi à l'esprit avec tout ce qui se dit, c'est ne pas être isolé. Ne pas s'isoler quand on se retrouve en difficulté. Et je pense que quand on passe 8 heures par jour, voire plus avec ses collègues, il y a ce travail aussi d'arriver ou celui qui n'est pas stressé d'identifier le mal-être de l'autre et de... Bon, c'est dans un monde idéal, mais je pense que c'est un travail aussi à faire en termes de solidarité et d'aller vers l'autre pour essayer aussi de comprendre et de voir pourquoi il est... Enfin, voilà, on travaille ensemble. Donc nous, c'est quelque chose dans le sport qui est évident parce qu'on travaille, parce qu'on se choisit pas non plus, mais on travaille ensemble, donc c'est important.
Mais la question, c'est si moi, tout seul... Parce que j'ai un état émotionnel un peu trop exacerbé, on va dire. Est-ce qu'il y a des techniques basiques, peut-être basées sur la respiration. C'est un peu ce qu'on fait dans les médias d'ailleurs.
Mais oui, bien sûr. C'est ce que disait Sandra sur la méditation. Tout est respiration. Mais moi, je vais aller encore plus loin. C'est-à-dire que tout ça, c'est de la conscience. Avoir conscience de l'impact que peut avoir votre capacité à bien respirer, à être décontracté. À un moment donné, vous sentez, vous êtes assis toute la journée, puis vous sentez que vous avez des tensions. On respire, on se concentre sur l'endroit où il y a la tension, et hop, on se concentre sur les trapèzes là, et on détend par la respiration. Mais il y a un autre point qui est très important et qui nous est essentiel pour performer. Notre énergie, c'est quoi? C'est l'alimentation. Donc je suis désolée, mais si vous mangez des n'importe quoi, il y a des conséquences sur votre capacité à être à vous sentir bien au travail. Donc l'hygiène de vie, oui. Qu'est-ce qui est votre carburant? Si votre carburant n'est pas bon, vous n'allez pas tenir non plus. Donc et puis après c'est aussi il y a une chose très importante quand on est athlète, c'est moi je dis qu'on a des boîtes. C'est-à-dire que il y a la boîte affective, il y a la boîte professionnelle et puis il y a la boîte performance ce pour quoi on se concentre. Et ça il faut aussi y prêter attention, travailler son ego. Donc l'humilité, à un moment donné, être en capacité de recevoir une information, de la rendre utile en fonction de qui on est, de nos besoins. Enfin, nous, quand on est athlète, on je vous ai parlé de l'analyse, c'est aussi ça. Mmh. Et si je suis très orgueilleux. Qui est vraiment pour moi l'inverse de la fierté, ça va jouer sur votre état.
J'entends des salariés qui disent mais moi j'ai travaillé mon ego, tout va bien, c'est l'autre. C'est l'autre. Alors donc je suis obligé à un moment d'oser le ton, c'est pas possible. Et non mais c'est une prise de conscience collective et souvent elle est portée par le management, par le leader d'équipe, etc. C'est peut-être lui qui peut insuffler cette
Ah moi je crois que c'est tout le monde a sa responsabilité et justement donner parole à chacun, ça fait prendre la responsabilité.
Mais on est bien français hein, c'est le côté non, mais c'est vous pas moi.
Oui, je sais pas si c'est français, c'est humain en tout cas quand
on va dire que c'est humain. On va dire que c'est humain. Evelyne, qu'est-ce qu'on peut dire? Il nous reste quelques secondes là.
Moi je suis totalement ce que dit Laurence. Aujourd'hui, il faut vraiment travailler tout ce qui tourne autour de soi. Donc vous avez en effet une partie sport, vous avez une partie méditation, vous avez une partie loisir. Le sport peut rentrer ou pas dans cette partie loisir, mais il y a aussi une partie loisir. Vous avez une partie extrêmement importante qui tourne autour de l'alimentation. Aujourd'hui, tous ces sujets-là, vous pourriez dire ça concerne pas Booster Academy, on est dans la... Détrompez-vous. Ça concerne complètement tout professionnel et ça concerne un organisme de formation comme le nôtre où on est vraiment sur l'efficacité, des techniques de vente, etc. Mais si on enlève tous ces points-là, donc on les intègre au fur et à mesure, nous, dans nos formations, pour que les gens prennent de plus en plus conscience que leur efficacité, c'est à la fois de la technique, c'est du comportemental, c'est du mental, et que tout ça, ça se travaille, et on est un être humain dans sa globalité avec un corps et un esprit, et que tout ça doit se travailler de façon homogène.
Voilà qui est dit. Je vous conseille d'amener cette émission en podcast cet été pour la réécouter et vous poser les bonnes questions pour pouvoir entamer une rentrée beaucoup plus efficace. Merci beaucoup Evelyne. Merci Laurence Fischer. J'ai été très heureux de vous accueillir. Merci beaucoup à Stéphane Valère pour tous vos précieux conseils sur la qualité de vie au travail. Merci beaucoup.
Business Club de France. Les entreprises françaises en mouvement sur BFM Business.
Et c'est l'heure de notre rendez-vous avec le médiateur national des entreprises, Pierre Pelouzet. Bonjour.
Bonjour Michel Picot.
Aujourd'hui, un appel d'offres, un travail effectué, puis finalement le client décide d'abandonner le projet au bout de 2 ans et donc de ne pas payer. Encore une histoire pas banale, ou peut-être trop banale.
Malheureusement banale. Heureusement, c'est pas si souvent, mais ouais, ça nous arrive aussi, et c'est important qu'on puisse les traiter.
Notre invité aujourd'hui dans notre studio, Nicolas Blangy, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le président du groupe PRM et par ailleurs président de la Fédération Française du Bâtiment du département de la Somme. Merci d'être avec nous. Pour commencer, un mot peut-être sur le groupe PRM, que faites-vous?
Alors PRM est un petit groupe familial qui a 2 activités principales, une activité de bâtiment et une activité d'industriel où nous faisons de la peinture à façon, c'est-à-dire que nos clients nous envoient un cahier des charges et on fait une peinture sur mesure pour eux.
Voilà, et parmi pour ce qui concerne la peinture, c'est la filiale Prospa, hein,
c'est ça Prospa, tout à fait.
Voilà, parce que c'est elle qui nous intéresse,
c'est elle,
dans le cas précis. Prospa remporte donc un appel d'offres pour la fourniture de peintures industrielles sur une nouvelle ligne de production. Donc effectivement, vous fabriquez des peintures industrielles, c'est pour l'automobile, le secteur agricole, les fonderies, enfin tous les fûts également, je vois ça. Quelle est votre mission dans le cadre de cet appel d'offres?
Alors en fait, c'est un appel d'offres particulier puisque la ligne n'existe pas encore. Donc tout est décrit, mais ça n'existe pas. Donc on va nous donner des instructions précises de en termes de qualité de la peinture, résistance aux UV, résistance au grenaillage, résistance à la corrosion, et en même temps des caractéristiques techniques qui vont servir à passer sur la ligne, un temps de séchage, il faut pas que ça colle au bout de tant de temps parce qu'on va le mettre on va mettre le produit final dans un emballage et donc il faut pas que ça colle, enfin ce genre d'éléments là. Et à partir de là, on formule notre peinture. Il y a des essais labos qui sont réalisés, des essais d'application sur une sorte de chaîne pilote, Et si on remplit toutes les qualités, on remporte l'appel d'offres. Mmh. On était plusieurs sur cet appel d'offres et on était ravis, on avait gagné ce marché.
Alors vous l'avez gagné, vous avez fait homologuer cette peinture.
Tout à fait.
Hein, c'est ça.
Et nous avons donc reçu notre contrat de fourniture avec une date prévisionnelle de démarrage. Sachant qu'évidemment la ligne n'existait pas encore, donc ouais. Là c'est là que ça a commencé à se compliquer puisqu'il a fallu construire cette ligne.
Alors voilà, je crois que vous effectivement vous avez rencontré des difficultés de production. De toute façon ça s'est allé sur 2 ans hein, ce chantier, c'est bien ça hein.
Alors c'est pas vraiment un chantier hein, puisque on est vraiment sur de l'industrie pure, ouais. C'est-à-dire que on est dans une usine où un industriel va monter une nouvelle ligne de mise en peinture de pièces qui avant étaient mises en peinture chez un sous-traitant. Mmh. Donc il décide de rapatrier cette production chez lui et il nous interroge sur la partie produit. Après il y a un autre appel d'offres pour la partie ligne de production et c'est là que ça s'est compliqué puisqu'en fait cette ligne de production ils n'ont jamais réussi à la faire fonctionner.
Ouais.
Et c'est pour ça que le projet a été abandonné en fait.
Ouais,
et nous, on y était pour rien puisque notre peinture était homologuée, fonctionnait, répondait au cahier des charges. Par contre, la ligne de production, elle n'a jamais répondu au cahier des charges et donc notre peinture n'a jamais pu passer sur cette ligne.
Et c'est pour cette raison-là que ce client a décidé d'abandonner ce projet parce que c'est quand même 2 ans de travail, quoi.
Et puis une ligne de production qu'ils ont quand même payée au bout du compte, hein,
ouais,
puisque même si, à mon avis, il y a eu un accord transactionnel à la fin, donc nous on n'est pas dedans, donc on n'en sait rien.
Mmh.
Mais et puis beaucoup de travail pour tout le monde.
Ouais, ouais. Mais ça veut dire que pour vous, beaucoup de travail, et ben finalement il abandonne, il dit paye pas.
Exactement.
Je paye pas.
Bah non, on va rien vous acheter, donc c'est fini.
Ouais.
Or dans notre contrat, il y avait quand même une précision qui disait qu'en cas d'abandon de fournitures au tort, nous n'étions pas en tort, nous avons le droit d'être indemnisés à hauteur des frais que nous avions engagés.
Ah bah, à minima, j'ai envie de dire.
Bien d'accord.
Pierre Pelouza, un commentaire.
Bah, alors on voit, là c'est quasiment la double peine pour l'entreprise de monsieur. D'abord, un investissement sur l'appel d'offres, j'allais dire tout le monde le fait, mais quand même, c'est considérable de devoir investir sur un appel d'offres pour pouvoir démontrer que le produit va fonctionner, etc., etc. Bon. Finalement, l'entreprise de monsieur gagne l'appel d'offres, on pense que ça y est, tout va bien, tout est merveilleux, on continue à investir puisqu'on a gagné l'appel d'offres, et à un moment donné, on vous dit, boum, ah, au fait, non, finalement, on fait pas, ça marche pas, désolé, merci, circuler, il n'y a rien à voir.
C'est un peu ça, ouais.
Et donc, on est dans un cas assez aberrant, et je comprends, très compliqué pour l'entreprise de monsieur, qui en plus n'a pas vocation à se fâcher avec ses clients, qui peut comprendre dans l'absolu que si le projet est arrêté, on lui commande pas de peinture, mais malgré tout, qui a investi beaucoup d'argent et qui ne peut pas rester sans rentrer un minimum dans cet investissement et récupérer une partie de la somme.
Ouais. Mais votre client avait les moyens, enfin, je veux dire, il n'était pas en difficulté financière.
C'est un gros groupe international, ouais. Les montants qui étaient en jeu pour moi sont des montants importants pour mon entreprise.
Oui, bien sûr.
Mais pour cette entreprise, c'est pas des montants. Enfin, c'est une somme, hein. Mmh. Mais c'est pas des montants délirants pour eux du tout.
Ouais, ouais. Alors, vous décidez de saisir la médiation des entreprises. Pourquoi ce choix?
Alors, en fait, par la Fédération du bâtiment, j'ai appris l'existence de la médiation des entreprises. Monsieur Pulizé était venu nous présenter son travail en Commission nationale de la sous-traitance. Et je me suis dit que c'était le seul moyen pour moi de toucher quelqu'un. Parce qu'en fait, la grosse difficulté qu'on rencontre souvent dans des grands groupes internationaux du type de mon client, c'est qu'on a un interlocuteur sur la chaîne, enfin qui s'est occupé du projet, mais le jour où le projet est abandonné, il s'en va sur un autre projet, et puis il dit je ne fais plus rien. Un acheteur qui est là pour vous compresser sur les prix, mais c'est tout. Et puis derrière, on envoie un courrier qui part, on ne sait pas où. Donc on n'a pas cette capacité à quand on est une PME à avoir accès à des gens qui vont pouvoir faire avancer votre problématique et puis vous répondre. Donc, suite à la présentation qu'on a eue, je me suis dit c'est vraiment j'ai plus que ça quoi, sinon c'est fini.
Ah ouais. C'est le travail du médiateur d'aller chercher, de tirer les ficelles, de trouver la bonne personne au bout quoi.
Oui, absolument. Et c'est vrai que monsieur a prononcé le mot juste, toucher quelqu'un.
Ouais.
C'est assez fascinant, mais effectivement, quand on est une relativement petite structure face à une grande structure internationale, on est rapidement perdu, on essaie d'appeler les gens, ils vont raccrocher au nez, on dit c'est pas le bon numéro, le monsieur est parti, il a changé de projet, son chef a changé de job aussi, et puis du coup vous vous retrouvez complètement perdu. Et non seulement vous pouvez pas résoudre votre problème, mais vous n'avez même pas quelqu'un à qui vous pouvez parler du problème. Et le rôle du médiateur, c'est vrai qu'on a la chance de pouvoir faire ça, et puis la persistance, comme a dû le démontrer Yannick Géhanin qui a porté ce dossier pour la médiation, d'aller chercher la bonne personne, c'est-à-dire quelqu'un qui est capable de comprendre, d'écouter et de trancher, de résoudre, de signer un accord si besoin. Ça, c'est le premier rôle du médiateur dans une médiation, aller chercher la bonne personne.
C'est quand même dingue. Nicolas Blangy, comment s'est déroulée cette médiation et ça a abouti sur quoi?
On a rempli, enfin j'ai rempli le petit questionnaire en ligne. Très facile à remplir, très pratique. Franchement, on peut mettre toutes les pièces qu'on souhaite en pièces jointes. Quelques jours après, j'ai été contacté. On a pris rendez-vous dans ma société. J'ai expliqué mon problème et on m'a dit tout de suite, bon ben, on a des contacts dans cette société-là. La personne que j'ai rencontrée, c'est pas elle qui a géré le dossier tout de suite. Elle a dit, je sais à qui je vais demander, vous inquiétez pas. Et c'est comme ça qu'après...
On a le bon interlocuteur en face.
On a un interlocuteur.
Ça permet de comprendre ce que vous avez fait.
Exactement.
Et à partir de là, l'accord a été trouvé?
Et à partir de là, on a trouvé un accord sans même que la médiation continue à intervenir. On est rentré dans la négociation qu'on aurait dû avoir logiquement vis-à-vis de notre contrat qui a été passé entre l'entreprise et moi-même. Et ça a coulé tout seul. En 6 mois, c'était réglé.
Ah ouais. Pierre, on peut pas parler vraiment de rupture brutale de contrat dans ce cas précis. On n'est pas loin, fort.
On est quand même sur une forme de rupture brutale de contrat, puisqu'il y avait un contrat, il aurait dû être mis en œuvre, et de manière unilatérale, le client a décidé de le rompre. On a une médiation un peu particulière. C'est-à-dire qu'effectivement, le médiateur ou la médiatrice peuvent tout à fait à un moment se dire, finalement, la discussion est enclenchée, j'ai pas besoin de rester au milieu de tout ça. À partir du moment où les gens arrivent à se reparler normalement, finalement, le but, c'est ça. C'est que les gens arrivent à se reparler normalement, à trouver un accord. Et donc, vous voyez, après avoir établi le contact, le choix était de se mettre un peu en retrait et de laisser faire les choses qui, finalement, se sont très bien faites. Ça n'empêche pas de revenir dans le jeu si on sent qu'il y a quelque chose qui se passe mal le long du chemin. Mais toutes les formules sont possibles. C'est ça la beauté de la médiation. Il faut arriver à trouver le bon calibrage pour trouver une solution qui, au final... un accord entre les deux parties, continuer à pouvoir ensuite travailler ensemble et à reprendre le cours normal des choses, même s'il y a eu un accident particulier dans la relation.
Et Nicolas Blangy, vous continuez à travailler avec ce client?
Tout à fait, c'est un client aujourd'hui, c'est pour nous un vieux client, on fournit ce client depuis plus de 20 ans, peut-être même 30 ans. C'était incroyable pour nous d'en arriver là, quelque part aussi. On se dit, mais c'est pas possible de ne pas réussir à toucher quelqu'un, à avoir un interlocuteur, à avoir des réponses à notre question. On n'avait même pas une réponse. C'est même pas qu'on nous disait non, c'est qu'on nous répondait pas du tout.
Ouais.
Et c'est vrai que ça nous a quand même permis de redémarrer sur des bases saines la discussion. Le médiateur nous a dit tout de suite, bon, a priori ça va, vous inquiétez pas, la discussion va démarrer. Si vous avez un problème, vous nous rappelez. Vous nous dites après à la fin ce qui s'est passé, si ça a marché, pas marché. Mais normalement, ça va aller. Ouais, effectivement, ça s'est très bien passé.
Ouais, ça veut dire aussi que si on en tire une leçon de ce que vous avez traversé, c'est de bien identifier l'interlocuteur dès le départ. Non, je sais pas.
Non, mais vous avez raison.
C'est jamais évident.
Non,
vous
parce
me direz,
qu'en fait,
parce que...
En plus, il change très très régulièrement. Ouais. À chaque projet, ça change. Et en fait, l'interlocuteur sur cette problématique-là n'est pas forcément l'interlocuteur qui suivait le projet. Puisqu'on passe en plus en phase de contentieux et en fait il fallait juste que les interlocuteurs habituels aient la mission de faire cette négociation, ce qu'ils n'avaient pas avant. Donc eux, ils n'ont pas la mission, ils font pas.
Ouais.
C'est assez.
Pierre Pelouzin, un petit commentaire.
Un petit mot pour remercier la FFB, la Fédération Française du Bâtiment, qui, comme beaucoup de fédérations et de syndicats professionnels, nous aide à faire connaître notre service. Ça a été le cas pour monsieur, on a eu l'occasion de se rencontrer dans ce cadre-là. Et c'est le cas pour beaucoup d'autres, je l'espère. C'est important que les entreprises nous connaissent, c'est important que les fédérations jouent ce rôle-là, parce que sans ça, on peut pas aider les entreprises si elles nous connaissent pas, si elles ne nous saisissent pas. Et vous voyez que dans le cas de monsieur, comme il l'a fait, on est arrivé à l'amener une solution, et c'est tant mieux.
Tant mieux. Merci beaucoup Nicolas Blangy, président du groupe PRM. Merci Pierre Pelouzet.
Merci Michel Picot.
Médiateur national des entreprises. Plus d'infos sur le blog de l'émission businessclubdefrance.com. Merci de votre fidélité.